bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, un nouveau mercredi pour un nouveau podcast aux côtés de Mam Ibrahan. Comment tu vas, Mam?
Très très bien, et toi?
Ça va super. L'invité que l'on accueille aujourd'hui a cofondé le média Cœur de Foot, spécialisé dans le foot féminin, et est désormais journaliste pour Africa Top Sport. Nous avons l'honneur d'accueillir Dounia Mesli. Comment tu vas, Dounia?
Très très bien, merci. Merci pour l'invitation.
Merci à toi d'avoir répondu présent. Comme je l'ai dit, actuellement tu es journaliste chez Africa Top Sport.
Oui, t'as aussi, et Cœur de Foot également.
Tu as aussi joué au foot?
Exactement,
pendant longtemps,
il y a longtemps.
À haut niveau.
Pas longtemps.
Pas professionnel, mais au niveau, c'est ça?
Pas longtemps, malheureusement. J'ai joué que 5 mois en entraînement.
Okay.
J'ai pas eu l'occasion de jouer des matchs officiels parce que je suis arrivé trop tard, en fait, dans le mercato.
Donc, okay.
Bon, tant pis, c'était de ma faute, je m'y connaissais pas. Hein. C'était le début du foot féminin, on va dire.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de joueuse jusqu'à ton statut actuel, justement?
J'avais essayé d'intégrer, on va dire, le PSG. Mais comme je n'avais pas fait de formation et que j'avais 18 ans, c'était déjà un peu trop tard pour moi. Donc j'ai fait des demandes à deux clubs dans le Nord qui étaient Hénin Beaumont avant tout. Et le coach, en fait, il m'avait dit d'accord en décembre. Mais moi, j'ai tardé, en fait. J'ai tardé, okay. J'ai attendu le mois de février pour y aller. J'y suis allée, je suis restée jusqu'à la fin juin. J'ai joué un tournoi avec elle, on l'a remporté. Et ensuite, j'ai vu que c'était trop compliqué, il y avait trop de sacrifices, que c'était mal organisé, mal géré. Donc je me suis dit que c'est impossible de devenir joueuse professionnelle à ce moment-là. Donc j'ai arrêté mon
okay.
rêve, on va dire, de devenir footballeuse. Tu
n'avais pas forcément l'ambition d'être footballeuse professionnelle, du coup?
À la base, si, parce que je m'étais vraiment engagée, tu vois, pendant 5 mois, je trimais, je m'entraînais 8 heures par jour, 5 jours sur 7. Les week-ends, je regardais leurs matchs. Et c'est un de ces matchs-là où je suis tombée amoureuse du métier de journaliste. J'avais écrit un article et c'est comme ça que j'ai été repérée, on va dire, par mon associé, Humalis, et on a fondé le média Cœur de Foot 3 ans plus tard.
Ok. Ça m'amène directement à te parler de reconversion, entre guillemets.
Oui.
Au début, tu as fait tout ce schéma pour essayer de jouer au football. Mm-hmm. Mais est-ce que dans un coin de ta tête, tu avais déjà l'idée de te dire qu'il fallait que tu aies une route secours, entre guillemets, ou que tu fasses quelque chose d'autre?
Mais j'y pensais pas vraiment. Hein. Vraiment, comme toutes les joueuses, on n'y pense pas vraiment. Moi, mon rêve, c'était vraiment de jouer à haut niveau. Je voulais voir ce que ça donnait aussi dans un club structuré, on va dire, comme le PSG. J'avais débuté au PUC, à Charletti. Donc après, je suis passée par le Paris FC aussi avant qu'elle devienne, avant la fusion avec le Juvisy, mais c'était pas structuré, c'était mal organisé. Donc je me suis dit que ça valait pas le coup, que j'abandonne toutes mes études. Et en fait, moi, j'avais testé ça parce que j'avais eu une grave blessure. J'avais une fracture de la clavicule en septembre de cette année, ou avant que je rejoigne le Hénin Beaumont. Et c'est à ce moment-là où je me dis, bon, Dounia, t'as raté ton année d'études. Tu te mets en année sabbatique et tu testes, tu vois où est-ce que tu peux aller. Et à la fin, avec Hénin Beaumont, oui, j'aurais pu signer peut-être dans une D2, D1. Mais je me suis dit que ça ne valait pas la peine, il n'y avait pas de salaire à ce moment-là et tout. Donc j'ai repris mes études à la fac, etc. Bon, c'est un peu mal passé aussi les études. Mais 3 ans plus tard, on a cofondé avec mon associé Cœur de Foot. Et c'est là où j'ai lancé un peu ma carrière de journaliste, on va dire.
C'est vraiment le manque de structure qui t'a freiné. Mam, toi par exemple, est-ce que tu penses que ça c'est un fait qui existe que dans le sport féminin ou dans le foot féminin, ou même dans l'athlétisme, c'est quelque chose que tu as pu constater?
Non, je pense que c'est quelque chose qui peut être vu dans plusieurs sports. Après, par rapport au foot féminin, je pense que dans ce qu'on voit au quotidien, dans des clubs ou même en France, hein, un club comme Lyon qui s'est donné les moyens assez rapidement, c'est quand tu fais un sport collectif, si c'est pas encadré, c'est encore plus difficile. Un sport individuel, tu sais que si tu vas, entre guillemets, dans ta salle de muscu, sur ta piste d'athlée, tu vas pouvoir t'entraîner, tu vas pouvoir progresser. Mais le foot, tu progresses aussi par rapport à ton effectif, tu progresses aussi par rapport à les déplacements, la zone géographique pour un club. Dans le Nord, tu devais peut-être aller faire 20, 30, 40 km pour certains matchs. Et si, par exemple, il n'y avait pas un déplacement en bus, mais il fallait une voiture des parents ou des joueuses pour se déplacer, c'est une grosse contrainte. Donc, c'est tout ça, je pense, toute cette économie ou tout cet écosystème qui doit changer ou qui peut freiner des gens en se disant, bah voilà, je veux faire de la haute performance, je vais pouvoir m'entraîner, récupérer. Si tu dois travailler, t'entraîner, ta récup, c'est pas la même. Ouais. Donc voilà, je pense que tu devais avoir envie assez rapidement de te donner les moyens, de te sentir au moins aidé professionnellement pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc je comprends.
Mais non, c'était compliqué, franchement.
Tu le disais, tu as cofondé le Média Cœur de Foot.
Oui. En parallèle de mes études, ouais, à Amos, oui.
De tes études, déjà, d'où t'es venue l'idée de fonder un média sur le football féminin?
Ben moi, j'ai été repérée par Christian Persson, le fondateur le PDG de Humalis. Et c'est comme ça en fait qu'on a lancé. C'est lui qui a eu l'idée en vrai de lancer le média cœur de foot. Hein. C'est lui qui m'a pendant un an, il m'a tanné pour le lancer. Il m'a dit, Dounia, il faut que tu lances un média sur le foot féminin. T'es douée, tu t'y connais, tu sais de quoi tu parles. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai dit non, mais moi j'ai pas la prétention d'aller voir des joueuses du PSG, de Lyon et de les interviewer, parce que pour moi c'était pas intouchable, mais tu vois, je rêvais de jouer à leur côté et de les interviewer, c'était un peu bizarre pour moi. Mais après, un an après, je me suis dit là, il y a un gros manque, un gros déficit. Les journalistes en fait qui en parlent, ils en parlent pas assez précisément. Donc je me suis dit oui, il faut que tu te lances, Dounia, et que. Voilà, que tu mettes ton travail au service du football féminin et de son développement, parce que là, il y en a assez, en fait. Les gens, ils ont besoin, ils avaient besoin, tu vois, il y avait beaucoup de lecteurs. Nous, on est presque à 100 000 abonnés sur tous nos réseaux. Ils avaient besoin, tu vois, d'un média spécialisé qui s'y connaisse vraiment, qui est sur le terrain. Nous, on est sur le terrain. J'étais à la Ligue des Champions la semaine dernière. Donc voilà comment on a lancé Cœur de Foot.
Est-ce que tu penses que la création de Cœur de Foot aurait été possible sans ce sponsor?
Waouh! Impossible, je pense, impossible. Tu sais les frais que ça engendre. Peut-être on est à 50 000 euros par an, le minimum, hein. Minimum. Sans compter quand on couvre les gros événements qui nous coûtent 5 000, 10 000 euros par an, quoi. Tu vois, donc ça aurait été impossible. On le voit la différence avec les autres médias. Hein. Nous, on est sur presque tous les événements majeurs. Donc voilà, tu vois, on a une force de frappe.
On parle du succès en termes de notoriété de Cœur de Foot, mais tu as indiqué qu'en termes de retour sur investissement, c'était pas forcément rentable, entre guillemets.
Il y en a pas.
C'est une des raisons aussi pour lesquelles tu as rejoint Africa Top Sport, il me semble. Et est-ce que c'est compliqué de développer un modèle économique solide quand on fait ce genre d'activité?
Alors en fait, mon sponsor, enfin le cofondateur, il a lancé Cœur de Foot parce qu'avant, il était dans une agence de communication qui l'aidait à mettre en avant sa société. Et ensuite, il s'est dit que donner cet argent à un média qui traite du football féminin, ce serait peut-être mieux, plus bénéfique pour peut-être l'image de sa société et l'image de la France. Et c'est ainsi que lui, il est venu sur ce projet-là, quoi. Mais à la base, c'est vraiment moi, quoi. À la base, il m'a vu, il a vu que j'étais vraiment passionnée et il voulait m'aider, quoi. Il voulait vraiment m'aider et je lui en suis vraiment très reconnaissante.
Ok. Mais quand tu fais le bilan, au final, t'as pas eu les retours qui étaient attendus.
Si, on a eu les retours dans le sens où, tu vois, la communauté, c'est la plus grosse, peut-être la plus grosse au monde. C'est-à-dire qu'on a le média, même aux États-Unis, The Equalizer, qui est le média spécialisé là-bas, il n'a que 6 000 abonnés, je crois, sur Facebook. Tu vois, c'est risoire quand nous, on en a 99 000. C'est incroyable. Donc, le retour sur investissement, on ne l'a pas. C'est sûr qu'on a dépensé énormément, énormément d'argent à perte. Mais les médias, c'est ça. Ça ne va pas dans le sens de profit, marge, tout ça, etc. Tu vois.
Tu penses que c'est propre à tous les médias, du coup, c'est pas par rapport au thème qui est abordé.
Non, je vois la différence avec Africa Top Sport. Okay. On voit la différence. Parce que, par exemple, il y a plus de publicité à Africa Top Sport, il y a plus de partenariats, parce que ça touche plus de personnes. On a peut-être 500 000 lecteurs par mois. Alors que sur Cœur de Foot, c'est peut-être 50 000, 60 000, 100 000 maximum peut-être.
Okay.
Donc peut-être dans les gros événements, c'est 500 000, mais vraiment la Coupe du Monde, quoi, pas plus.
Okay.
Après, aujourd'hui, économiquement parlant, pour un média, vivre, ça reste quand même difficile. Hein, quand tu vois les chiffres, Amazon aujourd'hui, qui est vraiment très, 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 très bon dans la qualité des contenus qu'ils peuvent livrer sur les matchs. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont à perte. Donc, ouais, du coup, c'est, je pense, assez délicat. Après, le sport féminin ou le football touche un peu moins de monde. Ouais. Mais vous avez quand même créé quelque chose qui a aujourd'hui une valeur. Ouais. Et dans le temps, ça va peut-être pouvoir trouver un modèle économique intéressant. C'est clair qu'au début, tu es obligé d'investir un peu à perdre. Donc, voilà. En tout cas, on vous tire notre chapeau parce que la qualité du travail est top.
Merci, c'est gentil. Merci.
Ça me pousse à parler plus globalement du football féminin. Ouais. On fait souvent le comparatif avec le football masculin, et pas toujours pour les bonnes raisons, entre guillemets. Si tu devais faire un état des lieux sur les 10 dernières années, quel bilan tu tirais de l'évolution du football féminin ?
En France, c'est assez critique. Sincèrement, c'est ridicule au sens où tu as des clubs en fait, comme Lyon qui se donnent à fond, qui viennent de remporter leur 8e Ligue des Champions. C'est incroyable et elles n'ont pas la reconnaissance et tout ce qui va avec, quoi. Le foot féminin en France, c'est tellement mal géré parce que moi, d'un côté, je comprends la FFF et d'un autre côté, je suis vraiment déçue de ce qu'ils font parce que, en fait, ils ont 2 millions d'abonnés, enfin de licenciés, la FFF. Donc, ils doivent gérer 2 millions de licenciés et pas que 100 000 du foot féminin. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas pointer que la FFF. Il faut que tous les clubs, toutes les joueuses, elles se mettent plus en avant, elles fassent plus de choses pour que le foot féminin se développe. Mais quand tu vois par exemple l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie aussi qui va se professionnaliser, l'Espagne, les joueuses, elles se sont battues, elles ont fait des grèves pour ça. L'Angleterre, c'est ce qui est bien dans l'Angleterre, c'est que c'est pas le gouvernement, mais à peu près, quoi. C'est la FAWSL qui a dit « Bon, maintenant, on ne rigole plus ». Tous les clubs qui veulent jouer dans l'élite devront être professionnels. Et ceux qui n'étaient pas professionnels, ils sont descendus. Manu Minetari, ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas dit on vous laisse le temps, etc. Comme ce qui se passe en France avec certains clubs où ils ont été plutôt indulgents. Il n'y a pas d'indulgence en Angleterre. Ils ont dit allez hop. Bon, est-ce que ça a vraiment fonctionné? Je ne sais pas, puisque Lyon est encore champion d'Europe. Mais il faut faire plus et mieux en France. Il faut faire plus.
Mais pour toi, les joueuses doivent être les premières actrices de leur développement, entre guillemets. Parce que c'est peut-être pas la volonté de toutes les joueuses d'être militantes, entre guillemets, ou de s'engager dans cette cause.
Ouais. Oui, mais il faut qu'elles sachent se mettre en avant. Normalement, tu dois avoir du média training, tu vois, pour qu'elles sachent communiquer, leur marketing, faire des affiches. Enfin, c'est la base. Nous, Cœur de Foot, comment on a réussi ? On a fait ça, on a mis en place du marketing. On n'a pas fait que faire des articles. Bon, après, dans nos articles, c'est très pointilleux. C'est-à-dire que ça s'adresse à vraiment des connaisseurs, des spécialistes. Et en même temps, on s'adresse pas au plus large public qu'on peut, en donnant énormément de détails et en essayant de les intéresser. Voilà.
Tout à l'heure, tu parlais du nombre de licenciés féminines. Ben
oui.
Et il est exactement à 163 717 joueuses aujourd'hui contre 90 000 en 2011.
Oui.
Là, Noël Legret, il vise 250 000 licenciés pour 2024.
Oui,
est-ce que tu penses déjà qu'en termes d'objectifs, c'est encore trop peu au vu des manifestations sportives qui arrivent ou justement c'est peut-être trop ambitieux? Comment tu perçois cet objectif-là ?
C'est pas que c'est ambitieux ou pas, c'est en fait il faut donner les structures, surtout les infrastructures, pour que toutes ces joueuses elles puissent se développer comme il faut, peut-être aller voir dans des pays étrangers, etc. Mais le plus important, c'est pas d'avoir autant de licenciés ou pas, ou d'en avoir 1 million ou 2 millions, c'est de donner les infrastructures et les conditions adéquates aux joueuses actuelles, de les développer comme il faut. Et de les assurer aussi, d'être là avec elles et de leur prouver que la FFF est derrière elles. Quoi qu'il en coûte, quoi.
Mais est-ce qu'on n'est pas dans une métaphore, entre guillemets, le serpent qui se mord la queue. Mmh. On dirait qu'il faut plus de licenciés pour avoir plus d'infrastructures, mmh. et on dirait aussi qu'il faudra plus d'infrastructures pour avoir plus de licenciés. Donc, qu'est-ce qui est la réalité ?
Je pense qu'il faut plus d'infrastructures déjà, de base. Il faut plus d'infrastructures, il faut mieux accompagner les joueuses actuelles surtout. Tu vois, il y a tellement de problèmes en France. Par exemple, ce qui se passe au PSG, ça renvoie tellement une mauvaise image. Et je pense que, tu vois, les parents ou même les jeunes filles, quand elles voient ce genre d'histoire, elles se disent « Mais ça se trouve, je vais aller dans un club et je vais avoir des problèmes ou ça va être une catastrophe, ça va être un cauchemar. » Donc moi, je veux pas vivre ça. Moi, ce que j'ai vécu à Aina Beaumont, c'était très dur. Hein. J'étais dans un hôtel, moi, à Aina Beaumont. J'étais toute seule dans un hôtel. Je m'entraînais 8 heures, 4 heures toute seule, 2 heures avec la DH et 2 heures avec la D1. Okay. Mais jusqu'à 22 heures, de 14 heures à 22 heures, je m'entraînais tous les jours.
Et tu penses qu'il y a un manque de témoignages, par exemple, des joueuses qui vivent ce genre de situation ? Parce que t'en parles, y en a certaines qui en parlent, mais on n'a pas l'impression que beaucoup de joueuses en parlent. On dirait que c'est quelque chose qui touche de nombreuses joueuses.
Elles sont très pudiques en fait, les joueuses. Je sais pas pourquoi elles aiment pas se livrer. Quand tu vois dans le foot masculin par exemple des histoires comme Dani Alves, tu vois, où il te disait oui, j'ai grandi dans un bidonville, je me suis fait tout seul, etc. T'as pas vraiment ça dans le foot féminin et je sais pas pourquoi quoi.
Ils développent pas le storytelling.
C'est ça.
Que je pense qu'il doit y avoir de belles histoires, hein, des filles qui ont eu du mal à se développer en jouant avec avec des garçons par exemple dans des clubs où elles ont pas eu leur chance. Donc non, je pense que c'est quelque chose. Je pense que, enfin, après je peux me tromper, mais aujourd'hui il manque un visage vraiment fort. Bon, on parle plus des États-Unis, mais là on va parler vraiment de manière européenne, même s'il y a des modèles. Hein. Oui. On a rencontré, j'ai pu rencontrer grâce à la Global Sport Week Alessia Russo, qui joue à Manchester. Et on voit que les beaux côtés, mais peut-être que c'était très difficile et il manque ce visage européen très fort qui va prendre la parole pour tout le monde ou qui va essayer de peut-être changer les choses. Et après je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que ces derniers mois en étant parisien, en habitant à Paris, on entend plus les mauvais côtés, en plus des actualités qui arrivent souvent entre des matchs assez importants. Donc c'était difficile de situer si on parle que de l'extra-sportif, est-ce qu'on va parler du sportif, et les résultats ont été clairement mis de côté, alors qu'on a on a du potentiel, hein. Il y a de très bonnes joueuses, mais il y a toujours cette incompréhension. Des fois tu comprends pas, t'as des très bonnes joueuses qui sont pas sélectionnées, d'autres qui sont mises de côté vraiment au placard, et finalement elles reviennent et après t'entends qu'il y a ci ça, donc c'est assez particulier. Mais justement, toi, ton idée sur ça, c'est quoi?
Je pense que il y a des personnes qui ne devraient pas être dans le foot féminin qui y sont.
D'accord.
Ça c'est le plus gros défaut en fait du foot féminin, c'est que il ramène n'importe qui. Donc tu vois, même à la FFF parfois ils mettent pas les bonnes personnes aux bons endroits. Moi j'ai vu des choses que j'ai même pas envie de... C'est tellement dégoûtant et frustrant en fait de voir que nous on se bat pour mettre en valeur le foot féminin et que tous ces gens en fait ils nous font faire 10 voire 100 pas en arrière à chaque fois. C'est épuisant et c'est usant. Vraiment, j'en peux plus de ces trucs-là.
Mais pour quelles raisons, selon toi, les bonnes personnes ne sont pas aux bonnes places ?
Parce que c'est le copinage. Les gens qui sont aux bons endroits, on sait très bien, c'est le copinage. C'est un tel connaît un tel, c'est l'autre, il veut mettre son pote coach, etc. Ou la sélectionneur qui veut mettre tel coach à tel endroit. On n'a pas assez non plus de coachs spécialisés foot féminin. Donc c'est ça aussi qui est dommage. Et ça vient de petit à petit, mais il n'y en a pas assez et il faudrait plus mettre l'accent dessus, quoi.
Je vais faire une petite parenthèse.
Oui.
On parle de restructuration, par exemple, au PSG.
Oui.
Est-ce que tu crois à la restructuration? Tu penses que ça va aller dans le bon sens? Ou c'est des promesses qui sont établies depuis des années, mais tu n'as pas vu les changements?
Ouais, c'est ça. Au PSG, en fait, ils misent plus sur l'équipe masculine que sur l'équipe féminine. Un peu comme les gros clubs, à part Barcelone, c'est l'immense club, quoi. C'est le seul qui a misé, on va dire, sur ses féminines comme il se doit. Et ils ont eu gain de cause, au final. Contrairement au PSG, ils n'ont pas su prendre les bonnes joueuses, investir, mettre l'argent qu'il fallait, faire un groupe, à amener le coach qu'il faut pour manager ces joueuses-là. Et voilà, c'est comme ça. Le PSG est un peu le mauvais exemple en France, contrairement à Lyon. Après, Lyon, c'est un autre schéma, on va dire. Voilà, Lyon s'est imposé à un moment où c'était encore vraiment possible, quoi. Où c'était encore possible de créer un groupe solide et qui pouvait décrocher le Graal.
Après, je pense que Lyon, c'est un modèle qui détonne, mais c'est surtout, il y a un homme qui est derrière, monsieur Aulas, qui a vu une opportunité, qui a mis les moyens, et du coup, ça marche bien. Ligue des Champions, c'est fou. Après, le modèle de Barcelone, je pense qu'il se cache derrière quelque chose, dans le sens où, pour les gens qui savent, Barcelone, c'est un club qui est omnisport.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, du coup, miser sur du handball qui rapportera forcément moins d'argent, même si le PSG le fait aujourd'hui avec une très belle équipe, mais c'est venu après. C'est venu vraiment après. Le PSG judo, c'est venu également après, même si c'est des entités qui existaient dans le passé, mais qui sont revenues parce qu'il y a une volonté avec des visages très forts, hein, Teddy Riner. Donc, ça existe. Et ce qui a été fait à Barcelone, je pense que justement, ce côté omnisport va permettre aussi à beaucoup de clubs de se développer. Et aujourd'hui, bon, il y a des exemples assez atypiques dans certains sports, mais quand tu prends ta première licence au judo, au handball, à la natation, au foot ou autre, quand un enfant commence, c'est peut-être pas le sport qu'il va faire toute sa vie. Mais si demain, tu commences par le hand et qu'à chaque fois que tu vas sur ton terrain de hand, tu vois des filles qui jouent au foot, tu vas peut-être te dire « Ah, c'est intéressant, pourquoi je ne devrais pas essayer ?» Des parents qui vont les pousser. Et c'est ça qui peut faire la différence. Et là, je pense qu'on essaye de créer des structures sportives hyper intéressantes, hein, hyper efficientes, parce que les filles du foot féminin, elles sont quand même... je ne sais plus si elles sont sur le camp des loges, mais elles ont quand même...
À Bougival.
Voilà, elles sont à Bougival, elles ont quand même des infrastructures. Ouais. Là, ça va beaucoup changer à partir de 2023-2024 avec le nouveau centre d'entraînement pour les garçons, mais les filles vont pouvoir bénéficier de certaines choses, même si ce n'est pas encore ce qu'on peut espérer. Mais je pense que c'est ça. Et dans le développement qui va nous emmener jusqu'à Paris 2024, quand on pense ce manque d'infrastructures, donc il y a le projet Macron avec les 5000... nouveaux stades ou nouvelles infrastructures, il faut y penser justement à des côtés peut-être un peu plus omnisport qui vont permettre à des jeunes de se développer et d'avoir peut-être une opportunité en disant « Ah, ça c'est intéressant, il y a cette piste-là, il y a une piste d'athlé, il y a un stade de hand, il y a un stade de paddle ou de tennis » parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup là du tennis avec Roland Garros, mais on se dit « Ouais, mais le tennis en vrai c'est pour les gens qui sont aisés parce qu'une raquette ça coûte cher, etc. » Mais si demain il y a un modèle économique où, je sais pas, moi je viens du 15e arrondissement, mais on sait qu'on a plein d'infrastructures pour de l'omnisport, mais ce n'est pas forcément utilisé au même moment. Mais en fait, ce qui va faire progresser un pays ou progresser des lieux, c'est l'émulation. Donc si je suis à côté d'un mec qui joue au tennis, je le regarde, je vais apprendre des gestes, un jour je vais vouloir jouer, et peut-être que je suis bon, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui peut faire vraiment une différence, donc faut y penser. Je pense que
c'est le modèle américain dont tu parles.
Ouais, c'est le modèle américain, mais le modèle américain, on rigole, mais moi j'ai eu l'opportunité d'aller sur des grosses facs, donc notamment USC, mais USC, le système économique où à l'année, je crois que c'est à peu près tout confondu avec tous les sports, les hébergements, etc., c'est 2 milliards de dollars. Donc 2 milliards de dollars, c'est une économie gigantesque ici. Il y a quasiment personne qui peut jouer sur ça. Exactement. Mais avec un système où ils ont de grosses personnes qui sont sorties de cette fac, George Lucas, des acteurs, etc., réalisateurs, qui eux, en fait, réinvestissent un peu d'argent qu'ils ont gagné pour que ce modèle-là soit pérennisé et que tu aies des nouvelles pépites qui sortent, que tu aies des gros chefs d'entreprise, des gros sportifs. Regarde, le coach du foot US là-bas, il est payé 6 millions de dollars par an. C'est un coach universitaire. Donc les joueurs, ils sont payés. Enfin, c'est un modèle qui est fou, mais économiquement, pour la France, ça serait difficile d'avoir un modèle comme ça. Mais déjà, en partant de plus bas, il y a des choses qu'on pourrait changer, qu'on pourrait modifier, qu'on pourrait adapter.
C'est comme... pas la priorité. Hein, en
oui, ce n'est pas une priorité. Mais un truc tout con qui emmène, entre guillemets, un peu de compétition quand tu es jeune. Quand tu vas à la natation, on dit les moins forts et vous allez dans le petit bassin et les plus forts vous allez dans le grand bassin.
T'as des niveaux, t'as 4
niveaux. Voilà, t'as 4 niveaux. Mais la vérité, c'est que quand t'arrives, personne ne connaît vraiment son niveau. La prof, elle va dire, bon, vous allez faire 25 mètres et on va voir qui nage bien.
Ouais.
Mais t'as pas envie d'être nul devant tes collègues. Donc du coup, tu vas nager. Si t'es nul, t'es dans le petit bassin.
Ouais.
Et ce que tu vas faire, c'est dire, vas-y, moi, je vais dans le grand bassin, je veux m'affirmer, je veux montrer que, tu vois, je veux pas me faire vanner quand on va sortir de la piscine. Mais c'est ça, en fait. Ouais. Et c'est quand t'as une émulation positive que tu as des résultats. Et je pense que c'est ce qui manque. C'est-à-dire que les filles du foot, là, direct, on leur dit, OK, vas-y, tu joues au PSG, tu vas jouer dans cette Arasa, tu es dans cette... dans ce centre d'entraînement, c'est comme si, c'est comme ça, mais peut-être que c'est pas encore adapté, peut-être que ça te donne pas la volonté de dire « Ok, j'y vais ». Si quand tu joues au Barça, le centre d'entraînement, c'est le même pour tout le monde. Donc tu vas croiser, tu peux croiser les garçons, tu peux croiser des gens d'autres sports, et ça joue beaucoup.
Tu sais ce qui manque aussi, c'est le mercato. Ouais, tu sais, quand t'as des joueuses qui sont emblématiques dans le club, tu vois, comme Grace Guéot,
ouais.
Tu vois, c'est une joueuse qui mérite... tellement, qui mériterait d'avoir 5 Ligues des Champions, elle aussi. Tu vois.
Ouais.
Mais puisqu'elle est mal entourée, elle n'arrive pas à accéder à ce titre-là, à ce Graal. D'accord. Alors que vraiment, du PSG, c'est la joueuse la plus méritante. Après, t'avais une joueuse comme Sabrina Delannoy qui aurait mérité aussi. Mais ils ont fait les mauvais recrutements au mauvais moment. Sarah Dabrit, ils vont te la chercher 4 ans plus tard, alors ils auraient dû la chercher en 2015. À ce qui paraît, Ada Egerberg, ils auraient pu l'avoir. Mais pour je ne sais plus quoi, 10 000 euros, je crois, ils n'ont pas pu l'avoir. Lyon proposait 10 000 euros de plus, je crois.
D'accord.
Après, ils n'ont pas pu l'avoir.
Pour être honnête, moi, au niveau chiffres et choix sportifs, j'ai pas les compétences et je vais pas me positionner sur
c'est comme si tu recrutais Ronaldo.
Oui, non, c'est clair. Non, ça, par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Après, oui, voilà, c'est quand tu juste en ayant un peu de lecture, tu comprends des choses, le système à l'intérieur. Chaque sport a ses spécificités.
Exact.
Et quand tu es à l'intérieur, bah, il y a des choses qui marchent, d'autres un peu moins bien. Et là, il faut taper plus haut. Il faut que tu envoies un courrier au club et que tu exposes. Non, mais la vérité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est aussi... toi, tu as un média et tu as de la visibilité. Tu peux te faire entendre et tu peux envoyer un message positif, un message positif à la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'engagement, qui ont des associations et autres. Et il faut aussi pouvoir... porter des projets qui vont servir entre guillemets le futur. Et là aujourd'hui vous avez pour moi cette possibilité, ou du moins vous avez cette légitimité, donc si vous pouvez le faire, il faut le faire. En tout cas, je te pousse et on va pas dire qu'on est là pour ça, on n'est pas dans l'engagement chez Sport Stratégie,
mais en tout cas
ça serait intéressant justement de mettre en avant et de rediriger les gens vers vous
c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Après, nous, tu sais, on n'est pas dans la communication, c'est-à-dire que nous on est vraiment dans le factuel. On parle de ce qu'on voit et on pointe ce qui ne va pas, surtout. On n'est pas dans la communication à dire le foot féminin, c'est génial, etc.
Mais ça tend plus vers l'investigation, entre guillemets, vers...
Oui. Même on fait des interviews avec les joueuses pour leur demander ce qui ne va pas dans leur club, comment elles se sentent, comment le club vit. Et puis, comme elles nous font confiance, c'est ça ce qui est bien, c'est qu'elles nous font tellement confiance qu'elles se dévoilent et qu'elles osent parler de ce qui ne va pas. Et pour faire avancer les choses. Et on en a besoin. Quoique, tu sais, moi j'ai parlé avec des grandes joueuses en France sur des sujets très graves. Et elles me disent non, j'ai pas envie d'en parler et tout. Elles veulent pas se mouiller. Alors c'est dommage.
Ouais, je trouve que bien sûr c'est dommage, mais oui et non. Je pense que d'un côté aussi. Faut savoir aussi se préserver. Ouais, faut préserver, investir, même si c'est compliqué. Maintenant, tu vois, il y a des choses qui sortent.
T'avanceras pas si tu fais ça. Regarde, par exemple, sur l'état des pelouses. Moi, j'ai contacté deux joueuses, deux grandes joueuses. Il y en a une qui joue encore en équipe de France et une autre qui jouait en équipe de France. Et on dit non, moi, je veux pas en parler publiquement et tout. Alors que je leur ai dit oui, il faut que les joueuses, elles en parlent et que nous, on envoie ce dossier-là à l'UEFA, tu vois, et à la FIFA. Mais elles veulent pas. Elles veulent pas se mouiller. En France, je dis.
Il y a aussi cette peur, peut-être, d'être blacklistée. Comme on disait tout à l'heure, toutes les joueuses ne souhaitent pas forcément s'engager. Elles pensent peut-être qu'elles ne seront pas suivies par les autres joueuses. Si c'est un mouvement collectif, à la limite peut-être, mais si toi tu te sacrifies pour tous les autres...
C'est surtout le regard des autres, tu sais.
Ça peut être compliqué.
Non, c'est surtout le regard des autres. C'est-à-dire que quand elles mettent « on a besoin de meilleures infrastructures », etc., sur Twitter, t'as 40 000 tweets où ils disent « Ouais, taisez-vous, allez à la cuisine et tout. » C'est bon, elles saturent. Ouais, c'est à cause de ça qu'elles parlent pas.
Après, je pense que c'est...
C'est la misogynie et le machisme en France.
Être joueuse de foot professionnelle ou juste de foot féminin, je pense que ça reste encore quelque chose de délicat. C'est quelque chose qui est en train de changer. Il y a toujours des mauvais discours, mais il y a des choses qui sont très positives, d'autres très négatives, je pense. Mais ces évolutions là il faut que ça vienne des joueuses ou des instances. Tu vois, quand tu me parles des pelouses, je sais pas comment ça se passe, mais nous on sait très bien que, je sais pas, ne serait-ce qu'en Ligue 1, les pelouses sont aujourd'hui notées. T'as le PSG qui a pris, je crois, que l'ancien jardinier de West Ham, de Chelsea ou West Ham ou quelque chose comme ça en Angleterre. et la pelouse, elle est incroyable. Donc, voilà. y a tout ça. C'est un système. C'est un système, c'est de la gestion, c'est de savoir qui est en place, quel choix, et changer tout ça. Mais tu vois, à la limite, aujourd'hui, on sait que on a des besoins, on sait qu'on a besoin d'infrastructures, mais surtout de pelouses de qualité. Je sais pas, il faut faire des formations, il faut envoyer des gens, parce que c'est des postes nobles. Hein. Au final, un club de foot, tu as besoin du jardinier, comme le mec qui va ouvrir et fermer le stade. Donc, avec tout ce que ça implique, un club comme le PSG, il y a 10 ans, ils étaient 200 salariés, aujourd'hui, ils sont plus de 800. Mmh. Tout ça change, mais tout doit changer avec des compétences.
Exactement.
Pas que des copains-copains. Là, on voit que, ça. Non, mais on voit que, voilà, il y a des modifications, il y a des systèmes, il y a des gens qui arrivent avec des grosses compétences. Mmh. Ils vont changer de directeur sportif, ou pas, parce que Campos, visiblement, c'est pas sûr que ce soit son poste exact. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, il faut savoir s'adapter. Et on oublie que, aussi, le monde change. On est dans une mondialisation. Le PSG aujourd'hui, c'est pas un petit club, c'est un club qui a une notoriété internationale, qui a une marque. La valeur du club n'est plus la même hier, c'est plus la même que celle qu'il y a aujourd'hui. Tout change. Et ce modèle-là, il faut vraiment pouvoir le comprendre et après modifier les choses là. Mais en tout cas, je pense que vous avez la légitimité de le faire. Donc, let's go.
Maintenant, on va parler un peu plus de diffusion, retransmission et visibilité. Donc, l'Euro féminin qui arrive, il sera retransmis sur Canal+, et certains matchs aussi sur TF1.
Oui.
C'était déjà le cas en 2019, je crois.
C'est ça, oui, exactement.
Quel bénéfice ça va apporter au football féminin pour vous? Déjà, tout à l'heure, on parlait d'émulation. Donc, à part l'émulation, peut-être...
Ça va être compliqué, hein, cet Euro. Hein. Parce qu'avec l'histoire qu'il y a autour de l'équipe de France... Je pense que les Français, ils en ont un peu marre. Et je ne suis pas certaine qu'ils vont suivre assidûment cet Euro, cette compétition. Surtout avec la déception de la Coupe du Monde 2019, j'ai envie de dire. Okay. Surtout après ça, oui.
Après, est-ce que c'était aussi... parce que c'était en France, en 2019.
Oui, exact.
Est-ce que là, c'est le fait peut-être que ce ne soit pas en France et comme tu as dit, après, il y a des choses...
Oui, il y a les histoires.
Extra sportives.
Ouais, c'est toutes ces histoires, les joueuses qui sont boycottées, le sélectionneur qui fait un peu ce qu'elle veut. Tout ça, c'est un peu... ça donne une mauvaise image de l'équipe de France. Et nous, je sais que, tu sais, avant, quand il y avait un match de l'équipe de France, par exemple, on postait une affiche, elle faisait 2000, 3000 j'aime. Maintenant, elle en fait 500, 800, quoi.
Okay.
Donc ça prouve, tu vois. Mm. On est vraiment le plus gros catalyseur du foot féminin et... tout ce qui se passe sur Cœur de Foot, ça démontre en fait ce qui va se passer dans le futur.
D'accord.
Et vraiment, je pense que ça ne va pas être une partie de plaisir. Surtout si les joueuses qui sont boycottées ne sont pas à l'Euro.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas une belle ambiance, je pense, en équipe de France.
Est-ce que justement, tu penses qu'on a réussi à capitaliser sur cette Coupe du Monde 2019?
Pas du tout.
Non.
Okay. Pas du tout. La saison d'après, oui, 2019-2020, il y a eu des excellents reportages, parce qu'à Sipari, ils avaient eu les moyens, etc., de le faire. Mm. Mais cette saison actuelle, ça a été une catastrophe. Alors, peut-être qu'il y a le Covid qui a joué, mais vraiment, ça a été une catastrophe. Regardez, on a perdu la Champions League, Lyon a fait une saison blanche, Paris a réussi à tirer son épingle du jeu face à une équipe de Lyon faible. Mais ça a tout prouvé, ça a montré qu'il y avait quelque chose qui manquait, tu vois, que ça a baissé.
Mais
quoi.
Pour quelles raisons, selon toi, on n'a pas pu capitaliser économiquement, au moins? Est-ce que... parce que là, tu parles que du sportif.
Ouais. Le parcours
donc
de
l'équipe
de
France. Donc, c'est vraiment à cause de l'aspect sportif.
À peu près. Et puis après, les gens, ils s'attendaient peut-être à mieux. Moi, je sais que j'ai fait l'Euro 2017. Et je peux vous assurer que l'Euro 2017, je me suis plus régalé que à la Coupe du Monde.
Okay.
Ce qui est vraiment... c'était... tu sais, il y avait des fêtes, il y avait des zones, il y avait des décors. Les Néerlandais, ils faisaient la fête tout le temps. En France, c'était mort. Même au Parc des Princes, il n'y avait rien.
Okay.
Franchement, il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas de fan zone à proprement parler. Moi, j'ai été vraiment déçue. Je pense qu'on aurait pu faire... vraiment beaucoup mieux, mais il faut pas tout remettre sur la FFF ou l'équipe de France. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le public aussi en France.
Ouais,
le public, la mentalité est mauvaise.
Après, ça c'est vraiment, tu penses que c'est vraiment une question sociale? L'idée qu'on soit, entre guillemets, dans une société patriarcale.
Oui, totalement. Malheureusement, on est le plus gros, on est le leader en Europe, mais avec l'Allemagne. Et les deux pays, en fait, c'est les plus machos et les plus patriarcales. C'est très grave, et c'est très bizarre. Mais c'est ainsi, et tu vois l'Espagne, l'Italie qu'on dit macho, etc., et ben non, c'est l'inverse.
Et justement, l'Espagne, quand on voit les matchs contre Barcelone, ouais. Leur demi-finale, leur quart et demi-finale, mm-hmm. avec le plus gros nombre de supporters, exactement. Dans un stade, comment tu vois ça justement? Parce que nous, de l'extérieur, on a l'impression que là, si tu me dis, ouais, l'Espagne, ils misent tout sur le foot, c'est Barcelone, le stade plein. C'est quoi ton idée là-dessus? Comment ça se fait que ça soit comme ça aujourd'hui?
C'est sociétal. Comme je dis, je pense que les joueuses, en fait, les femmes déjà de base là-bas, elles se battent plus qu'en France. Tu vois, c'est les femmes, je pense qu'elles se mettent plus en avant, et c'est parti d'une grève. C'est parti d'une grève de toutes les joueuses, de tous les clubs. Mmh. Et là-bas, il n'y en a pas 12, il y en a 18. Et elles se sont toutes réunies, elles ont dit, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'on se professionnalise pour aller... Avec l'Espagne, avec l'équipe nationale, hein, pour aller plus loin, pour aller décrocher des titres, parce qu'on en a marre d'être ridicule en compétition internationale.
D'accord, ok. Donc ça s'est vu assez rapidement avec cette finale même.
Totalement, okay. Et puis Barcelone a remporté son titre en Ligue des Champions.
Oui.
Donc ça prouve que ce qu'elles ont fait, ça a fonctionné.
D'accord.
Tout simplement.
Ok.
Mais il me semble aussi qu'on a battu un record au niveau de
90 000 en Espagne.
Voilà, c'est ça.
Ouais, totalement. Ah oui, record mondial. Ah, oui,
donc,
pour un club.
Le foot féminin, ça peut aussi apporter des recettes en termes de billetterie.
En Espagne, en tout cas.
En Espagne. Et pour toi, ça, c'est impossible en France. Par exemple, quand on a des gros chocs comme Lyon, Paris Saint-Germain, il me semble aussi qu'un record a été battu dernièrement pour... un match du PSG.
35 000, ouais.
Donc, y a quand même cette idée que le foot féminin attire un public. Et que...
Pas assez. Oui, mais pas assez. Et puis, la plupart, c'est vraiment des vrais fans, tu vois. C'est pas des gens qui sont curieux ou qui veulent profiter d'un spectacle. C'est ça qui est triste. C'est qu'ils connaissent les équipes et non, mais c'est pas assez, en fait. Il n'y a pas assez de spectacles, il n'y a pas assez de marketing. Tu vois, y a beaucoup de choses qui manquent dans le foot féminin en France.
On a couvert la Global Sports Week. Mmh. On a pu rencontrer Béni Bonsou, la directrice du contenu quotidien du Comité Olympique International. Et elle nous disait qu'il fallait arrêter de voir le sport féminin comme une œuvre de charité.
C'est clair.
Mais réellement comme un réel business. Est-ce que c'est un avis que tu partages, et en quoi c'est un business qui peut être attractif selon toi?
Il faut juste savoir mettre les joueuses plus en avant, vendre l'équipe féminine un peu mieux, sans problème, avec une vraie aura. Tu vois, c'est dans le foot masculin, c'est ça que les joueurs ils aiment. Enfin, même les jeunes et les fans, ce qu'ils aiment, c'est que les joueurs ils sont presque intouchables. C'est des grandes stars, ils se baladent en Lamborghini. Ils ont des montres excessives et tout. C'est ça qu'ils aiment dans le foot masculin. Et dans le foot féminin, il faut qu'il y ait ça aussi. Il faut qu'il y ait plus de proximité. Il faut qu'il y ait des tournées. Tout ça, quoi.
Tu penses qu'il faudrait vendre du lifestyle, entre guillemets?
Bah oui, bien sûr.
Mais est-ce que le lifestyle aussi, c'est pas en adéquation avec aussi les revenus qu'elles perçoivent? Donc, c'est compliqué de développer une certaine communication autour de son lifestyle si les revenus ne suivent pas forcément. Quand, par exemple, je pense à des joueurs comme Kimpembe, Benzema, il y en a d'autres qui lorsqu'ils font des événements, lorsqu'ils sont dans des manifestations sportives, etc., ils font appel à des vidéastes, des photographes pour communiquer sur leurs projets extra-sportifs. Et il y a cet aspect marketing, communication qui est développé. Mais est-ce que ça, c'est possible à développer chez des joueuses, hormis peut-être les grandes joueuses dont on parlait tout à l'heure? Comment tu vois ça?
Moi, je pense qu'il faut qu'elles investissent sur elles-mêmes.
Ok.
Tu vois? Soit tu sais le faire par toi-même. Il y a des joueuses qui savent le faire par elles-mêmes. Tu as la gardienne du PSG qui a 500 000 abonnés sur YouTube. Elle le fait elle-même, Barbara Wojtkowa. Tu vois, elle se filme tout le temps, elle fait des défis avec les gens, etc. Et elle a 500 000 abonnés sur YouTube. Je pense que sa chaîne YouTube, tu vois, elle lui rapporte. Mais elle a commencé petit et elle a grandi, grandi, grandi. Faut que toutes les joueuses sachent faire ça. Moi, tu sais, il y a depuis 7 ans, je tanne les joueuses. Tous les jours, je leur dis, fais plus de pubs, fais des affiches, fais des affiches, fais des affiches. Et ils me disent, non, je peux pas, j'ai pas envie. Les gens, ils vont parler. Après, les gens, ils vont me regarder. Je suis pudique. Tu vois? C'est pas bon. Regarde, t'as Jordyn Huitema. Elle fait des photos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a des 1 million de j'aime sur ses photos. 1 million. C'est ça qu'elle doit faire. Et ces 1 million de j'aime, ils vont te rapporter. T'as des influenceurs qui gagnent, ils te disent 300 000 euros par mois avec ça. Donc, si tu sais vendre ton image, c'est à ce moment-là que tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Et faire progresser aussi le foot féminin, la cause, etc. Mais elles, elles ne veulent pas se mettre en avant parce qu'elles ont peur des critiques. Les critiques de. Que des critiques misogynes, tu vois, genre va à la cuisine ou tais-toi, ou genre t'es nul, tu vois. Mais c'est comme ça. Tu crois que Neymar, il n'a pas des critiques? Je crois qu'il n'en a pas.
Bien sûr.
Tout le temps, c'est ouais, tu te roules par terre, arrête de faire la sauterelle, ou je sais pas quoi. Il en a des dizaines de millions, peut-être plus que des éloges.
Je pense que pour elle, l'aspect émotionnel, c'est elles le prennent trop en compte.
Ouais, elles n'arrivent pas à le gérer. Ça joue beaucoup, hein. Ça joue beaucoup.
Ok.
Je le vois dans les matchs, hein. C'est le Lyon là, ils ont gagné parce qu'ils avaient le mental, hein, face à Barcelone. Hein. Barcelone, je les ai vus éteints et en plus il y avait des affaires internes aussi.
Ok.
Ça veut tout. Dès que tu sais qu'il y a des affaires internes, c'est mort. Ouais, voilà, c'est c'est ça. Alors que dans le foot masculin, tu vois, c'est l'inverse. T'as des clubs, ils ont des problèmes dans leur club. Barcelone par exemple, peut-être le Real aussi, hein. Parce que comment ils ont fait pour regagner, enfin renverser la vapeur contre City? Ils avaient des problèmes, je crois, avant, tu vois, et ils ont quand même réussi à. Ça, c'est incroyable, tu vois, c'est pas la même chose. Après, tu sais, eux ils gagnent des millions, donc ils se disent, si je gagne pas ce match là, je vais pas gagner mon million ou je vais pas re-signer dans un gros club, etc. Alors que les filles, elles ont pas encore cette pensée là de se dire, oui, il faut que je gagne pour valoir plus cher après. C'est ça qui est dommage.
Donc, si on pouvait conclure sur ce sujet, c'est pour rendre le football féminin plus attractif pour les investisseurs, entre guillemets, faudrait déjà que les joueuses deviennent leur propre communicante.
Oui, totalement. Il faut qu'elles sachent vendre leurs images. C'est très important. C'est la base. Nous, Cœur de Foot, on a réussi. Je t'ai dit, on a eu 100 000 abonnés sur Facebook parce qu'on a su vendre. On a fait des affiches, on fait des storytelling, on fait énormément d'interviews avec les joueuses, des interviews très pointilleuses. Elles sont très longues, nos interviews, où tu connais bien la joueuse, etc. C'est comme ça qu'on a fonctionné. On s'est, tu vois, j'ai fait Ada Hegerberg en 2018, juste avant qu'elle ait son ballon d'or.
Ouais.
Avant le New York Times, avant l'équipe, je les ai tous coiffés au poteau. Et ça nous a donné tellement de crédibilité, tellement de... Tu vois, ça fait connaître les joueuses. Et plus elles sont connues, plus ça fera développer l'image et plus ça développera l'économie autour d'elle. Ouais. Mais ça, elles n'arrivent pas à le comprendre. C'est incroyable.
C'est difficile de les sensibiliser sur ce sujet-là.
Elles ne savent pas le faire. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas communiquer. T'en as qui communiquent, tu vois. Mais elles communiquent mal. Elles communiquent mal. J'ai envie de leur dire arrête de faire ces trucs, tu vois. Elles le font très mal.
Mais est-ce que c'est pas une, entre guillemets, une volonté de leur part et c'est quelque chose qu'elles négligent juste un petit peu?
Je pense que c'est juste, j'avais dire, la flemme. Elles ont la flemme de le faire. Ouais. Mais je t'assure, elles en font trop. Alors que les gens, ce qu'ils aiment, c'est la simplicité. Tu mets juste une photo de toi où tu dis on a gagné, on est contente, ou voilà ce que j'ai mangé aujourd'hui. Les gens adorent savoir ce que la joueuse ou le joueur a mangé.
C'est les insights, ce que les gens veulent.
Mais oui, moi je l'ai vu, hein, je l'ai vu. À la Cannes, j'ai posté de la nourriture, ça a plus fonctionné que des photos. C'est malade, les gens, je te jure.
Ça parle à tout le monde, on a tous besoin de manger.
Oui, c'est clair. Non, mais je pensais pas, je pensais que ça allait faire 3 likes, ça fait 5000 likes. Tu vois?
Souvent, dans le football, on parle de l'écart des salaires entre joueuses et joueurs.
Ouais.
Est-ce que, déjà, pour vous, c'est un faux débat, en France en tout cas, ou est-ce que vous pensez que ce débat est légitime?
Ça dépend. Ça dépend dans quelle mesure tu le vois, en fait. C'est un débat et un faux débat dans le sens où, oui, les hommes rapporteront toujours plus que les femmes. Mais il faut aussi prendre en compte l'historique, c'est-à-dire que les femmes ont eu du retard par rapport au foot masculin. Par exemple, la Champions League, la masculine, elle existe depuis 1955. La féminine, elle existe depuis 2001. Donc comment tu fais pour rattraper cette marge de progrès? Comment on fait pour rattraper ce retard? C'est de la faute des joueuses si elles sont moins bien payées? Ben non, c'est pas la faute des joueuses. Donc pourquoi elles devraient en porter les conséquences? C'est triste, tu vois. C'est pas normal. Et après, t'as l'équipe nationale. Pour moi, l'équipe nationale, je suis désolée, mais les joueuses et les joueurs représentent autant l'équipe et le pays, la nation, le drapeau, les uns des autres. Regarde, les États-Unis, elles représentent mieux que les garçons. Et pourtant, elles sont quand même moins aimées que les garçons.
Mais d'ailleurs, elles ont obtenu gain de cause dernièrement, oui, là. Oui.
À force en de ayant se battre,
un salaire équivalent, oui, je crois.
Parce que là, il y a eu un nouveau gouvernement, etc. Tu vois, avec Trump, c'était très machiste, etc. Maintenant, il y a Biden, il est très plus ouvert, etc. Mais même ça, même la Norvège, ils ont eu, le Brésil, etc. Mais en équipe de France, je suis désolée, tu représentes l'équipe nationale, tu dois être à part égale. Pour moi, normalement, c'est la base, c'est la logique. Et si les clubs pouvaient rétribuer un peu de ce qu'ils donnent aux garçons, aux filles, ben, ça serait mieux. Ça leur donnerait plus confiance en elles et ça développerait mieux le foot féminin et plus et ça donnerait aussi une meilleure société, une société plus harmonieuse selon moi.
Ça serait pas spécifique aux sélections nationales. Toi, tu penses aussi qu'il devrait y avoir une redistribution au niveau des clubs,
oui,
malgré le fait que ça ne génère pas forcément.
Par exemple, t'as Khadija Tudjani qui a eu un salaire à 400 000 euros sur 3 ans, je crois. T'as Kylian Mbappé qui va peut-être toucher 300 millions, de ce que j'ai compris. En 3 ans ou en 4 ans, c'est ça?
Je crois qu'en fait, c'est des faux chiffres.
Ouais, mais il me semble, tu vois, 300 sais pas millions, combien il va gagner. Ils te disent 200 000 euros par jour. C'est des malades, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est. tu vois? C'est. Arrête, je sais qu'ils payent, ils donnent beaucoup aux associations, etc. Mais il faudrait mieux. Après, je pense qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Je pense qu'ils ont peur de perdre le contrôle dans le foot féminin. C'est-à-dire que s'ils donnent 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, après, ça va être comme dans les garçons, ça va être des 10 millions, des 100 millions, des, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils rétribuent moins aux joueuses. Après, la plupart, elles sont bien payées. Mais je pense que les joueuses, limite, elles font plus de sacrifices que les garçons. Limite. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sacrifient leur corps. Ah bah oui. Là, t'as Amel Majri qui est tombée enceinte avant la finale de la Ligue des Champions parce qu'elle s'est blessée aussi. Bah, elle n'a pas pu jouer. Elle ne peut pas jouer, elle ne pourra peut-être pas faire l'euro, c'est triste, quoi. Est-ce qu'un garçon, il aura à se poser cette question-là? Non. Donc, qui fait le plus de sacrifices? Et prenez en compte aussi le retard. Je suis désolée, il faut prendre le retard. Tu as 100 ans de retard entre le foot masculin et le foot féminin. Il faut le prendre en compte. Je suis désolée.
Est-ce que tu peux nous expliquer précisément comment fonctionne le système de redistribution, même si... En France, enfin le modèle économique pour les joueuses, parce qu'on parle de contrat fédéral, de contrat, elles sont pas forcément toutes professionnelles, donc comment
En fait, le contrat fédéral pour eux, ça veut dire contrat professionnel.
Ok.
Oui, ça les professionnalise dans le sens où ça leur donne la sécurité sociale, ça les protège, etc. Ça leur donne un vrai contrat et c'est ça qui est bien. Après, t'as pas le salaire qui suit forcément. Mais au moins, elles sont plus protégées. La plupart, après, il y a certains clubs qui font mal les choses parce que, justement, c'est mal encadré, mal géré. Et la FFF ferme les yeux sur ça, quoi. C'est ça qui est triste, quoi.
On arrive bientôt à la fin de ce podcast. On a pas mal développé. Est-ce que tu aurais peut-être un mot à ajouter pour conclure?
Mais je pense que la France doit se réveiller. Et rapidement. Rapidement. Parce que je pense que... L'euro va être une catastrophe, selon moi. Même si les joueuses, les bleues, elles sont toutes exceptionnelles. Il n'y en a pas une seule qui ne mérite pas sa place. Mais il y en a qui méritent plus leur place que certaines, ça c'est sûr. Et il faut faire le mieux pour l'équipe de France féminine pour que la France rayonne, enfin. Parce qu'on est troisième mondial, mais c'est faux. C'est faux. On n'a rien gagné. Non, mais c'est vrai. On n'a rien gagné, c'est de la frustration emmagasinée. Le peuple en a marre. Je t'ai dit, moi je le vois. Sur ce qu'on partage de l'équipe de France, les gens en ont marre. Il n'y a que des trucs négatifs, négatifs, alors qu'avant c'était positif, il y avait la joie de vivre. Franchement, c'est moche pour la France.
Vraiment. Après, pour te rassurer, la Belgique, ils sont souvent premiers, mais.
Ils gagnent rien. Ils gagnent rien, c'est ça. Les pauvres. Même, ils n'ont pas de chance. Et pourtant, l'équipe féminine, hein, je te jure, hein, elle se développe bien, elle aussi. Hein.
Ouais.
Ah oui, ça fait plaisir.
Ah, mais la Belgique, par contre, ils ont vraiment des infrastructures pour,
Développer.
Pour se développer. Okay.
Ouais, parce qu'ils ont que ça, je pense.
Ouais, mais même en termes de stade, en termes de chaque petite ville à son stade, ses infrastructures.
Ils sont obligés de briller dans le sport.
Ouais, mais ça arrive. Hein. Enfin, on dit ça pour la Belgique, mais regarde la Hollande aussi. Hein. C'est collé, ça se développe aussi très bien. Mais ça doit donner aussi de l'espoir à tout le monde, puisque si des six petits pays peuvent le faire, en tant que grand pays, entre guillemets, on doit se donner aussi les moyens de briller. Et...
C'est la mentalité.
Ouais, c'est la mentalité. Aujourd'hui, on est plus dans le côté politique ou intellect que sportif, et on essaye de changer ça, mais c'est pas évident, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur Sport Stratégie.
Yes, merci à toi, Dounia. Merci, Imam.
Merci
à tout le monde de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain épisode du Business Club. À très bientôt.